De Radio Classique avec David Abiker.
Presque 7h15, c'est les voix de l'économie. François, votre invité, c'est Isabelle Méjean, professeure d'économie à Sciences Po.
Bonjour Isabelle Méjean.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes aussi membre du Conseil d'analyse économique et membre du Cercle des économistes. Alors, États-Unis contre Chine, Chine contre Europe, Europe contre États-Unis. On a ce triptyque, trois guerres commerciales bien différentes, trois face-à-face, on va dire, au minimum. Alors, si on prend d'abord entre États-Unis et Chine, quel que soit le futur président américain, il faut s'attendre à ce que cette guerre commerciale, pour le coup, continue.
À différents niveaux d'intensité, je pense, selon les résultats des élections. Mais effectivement, la situation États-Unis-Chine, c'est une situation qui est montée en tension autour de 2018-2019, avec une augmentation très importante des tarifs appliqués sur les exportations des deux pays, et des tarifs qui ont été maintenus depuis par l'administration Biden. Donc aujourd'hui, les observateurs craignent un peu un retour d'une administration Trump qui pourrait conduire à de nouvelles augmentations de tarifs, mais dans tous les cas, la situation reste très tendue entre les deux pays sur le plan commercial.
Et parce qu'avec Joe Biden, ça reste America First. Qui en a le plus souffert pour l'instant? J'allais dire États-Unis, Chine, mais aussi, est-ce que ce sont les consommateurs, est-ce que ce sont les industriels?
Les premiers résultats empiriques sur la vague 2018-2019 montrent que il y a eu une transmission complète des tarifs à l'importation américaine sur les importateurs, les consommateurs américains. Donc le coût a été entièrement supporté par l'économie américaine. Et de l'autre côté, sur les tarifs qui ont été mis en place par
la Chine... Quand vous dites tarifs, c'est les droits de douane.
Les droits de douane, excusez-moi.
Tarifs, c'est l'anglicisme, mais on comprend.
Pardon, les droits de douane imposés par la Chine en mesure de représailles. Il y a eu une transmission incomplète sur les consommateurs chinois. Donc une partie a été absorbée par les entreprises américaines qui ont un pouvoir de marché beaucoup plus faible sur le marché chinois et donc ont été obligés d'absorber une partie droits de douane.
On voit que dans le même temps, l'un des buts de cette guerre commerciale, en tout cas théorisée par Donald Trump, c'était de ralentir l'accès aux technologies américaines, notamment pour Huawei. Sauf qu'on voit que Huawei a réussi à se passer des puces américaines, que le concurrent chinois du Boeing 737 et de l'Airbus d'ailleurs A320, le Comac, arrive. Donc finalement, la Chine continue à se développer, y compris en technologie, malgré cette guerre commerciale.
Oui, effectivement. L'administration Biden a beaucoup plus insisté sur la question des contrôles des investissements et des transferts technologiques à l'industrie chinoise. Mais ces contrôles se font dans un environnement dans lequel la Chine a énormément investi dans son industrie et dans la recherche et développement, la technologie. Et donc c'est un pays qui, depuis 15 ans, 20 ans, est en montée en puissance très importante sur le point technologique. Donc,
Et côté chinois, est-ce qu'on est uniquement dans la riposte aux sanctions américaines ou est-ce qu'il y a aussi une stratégie pensée, délibérée?
Depuis le milieu des années 2015, il y a une stratégie chinoise de développement avec qui s'appuie sur la force du marché chinois. Le marché chinois, c'est un très gros marché, donc ça permet à l'industrie chinoise de se développer et de développer dans des secteurs technologiques très avancés. Et donc ça continue. L'administration chinoise appuie beaucoup son industrie, notamment sous forme de subventions très importantes. C'était déjà le cas dans les années 2010, et c'est toujours le cas.
Isabelle Méjean, si on regarde maintenant le face-à-face entre la Chine et l'Europe, le credo a longtemps été chez nous l'ouverture, les échanges. Est-ce qu'on peut commencer à parler de guerre commerciale, avec notamment ce qui se passe autour de la voiture électrique?
De guerre commerciale, je pense pas. L'approche européenne est assez différente, notamment parce que les États européens ont des positions très différentes du point de vue du commerce international. On a des pays qui ressemblent finalement pas mal aux États-Unis, au sens où ils ont un très fort déficit bilatéral vis-à-vis de la Chine, mais on a aussi au sein de l'Union européenne des pays dont le commerce repose beaucoup plus sur le marché chinois, comme l'Allemagne, et donc qui sont pas du tout enclins à entrer dans une guerre commerciale active. Donc du point de vue européen, pour l'instant, le discours est vraiment orienté sur la vigilance vis-à-vis des règles du commerce international et notamment l'utilisation possible de mesures pour en représailles à des subventions jugées non conformes aux règles du multilatéralisme. Donc concrètement, il y a des enquêtes aujourd'hui qui visent notamment le secteur de la voiture électrique pour essayer essayer de potentiellement mettre en place des droits de douane si les subventions chinoises à la voiture électrique sont jugées non conformes.
Et à peine la France fait un peu de publicité autour de ses enquêtes européennes sur les subventions chinoises à son industrie de la voiture électrique, à peine la Chine annonce des enquêtes et potentiellement des sanctions contre le cognac, ce qui vise concrètement la France.
Oui, bon, ça c'est le jeu des guerres commerciales, ou en tout cas...
Avec pour œil d'entendant.
Exactement.
C'est deux industries totalement différentes.
Industries totalement différentes, et c'est exactement pour ça que l'Allemagne n'est pas du tout encline à mettre trop en avant des instruments agressifs, parce qu'on sait très bien, et ça a été le cas pendant la guerre commerciale sino-américaine, que la Chine va faire des mesures de représailles, et donc viser spécifiquement finalement là où ça fait mal. Donc le cognac en France, mais l'automobile et les machines outils en Allemagne.
Il y a donc des divergences internes à l'Europe, il y a aussi une philosophie qui n'est pas très portée vers ce protectionnisme, du but de la construction européenne, on va dire. Est-ce qu'on aurait les armes vraiment de mener cette guerre commerciale juridique
Pas juridiquement. Aujourd'hui, l'OMC ne fonctionnant pas très bien, on voit que ce qui a été fait au moment de la guerre commerciale sino-américaine, finalement, n'a pas donné lieu à des problèmes particuliers, puisqu'il n'y a pas eu, il y a très peu d'action du côté de l'OMC. Après, la question, c'est encore une fois celle de la volonté. C'est pas tellement est-ce qu'on est capable de le faire, c'est est-ce qu'on a envie de le faire. Et dans le cas américain, ce qu'on a vu, c'est que les représailles sont très importantes. Les droits de douane sur les produits américains en Chine sont aujourd'hui autour de 20%, alors qu'ils étaient autour de 8% avant le début de la guerre commerciale. Donc c'est très important en termes d'accès au marché. Donc pour les pays dont l'économie repose en partie sur l'accès au marché chinois, c'est un coût qui est très important à supporter.
Alors si on met de côté la Chine et qu'on referme cette boucle entre ces trois grandes zones mondiales de l'économie, c'est plus étonnant, c'est entre alliés en quelque sorte, puisqu'il y a non pas une guerre commerciale entre États-Unis et Europe, mais quand même une sorte de guerre froide un petit peu en ce moment.
Disons qu'il y a une transition technologique à venir importante, et dans ce cas-là, il y a toujours un peu un problème de ce qu'on appelle winner takes all, c'est-à-dire que chaque pays, chaque zone a intérêt à développer son industrie le plus rapidement possible pour ensuite prendre des parts de marché à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, c'est largement ce qui se passe dans les industries vertes, à la fois aux États-Unis et en Europe. Il y a des efforts importants pour essayer de mettre en place les conditions au développement d'industries vertes compétitives. Ça passe par le Inflation Reduction Act aux États-Unis et en Europe.
300 milliards de subventions.
Exactement. Et en Europe, ça passe par un certain nombre d'outils, le Next Generation, Green Deal, qui orientent les financements vers l'industrie verte.
Et le MACF, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que prépare l'Europe sur un certain nombre de produits, est-ce que ça peut être une réponse et aussi là aussi une forme de protectionnisme ?
C'est une forme de protectionnisme, si on veut. C'est surtout un complément à un des instruments principaux de l'Europe pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, qui est la taxation du carbone. Aujourd'hui, on a un marché du carbone européen qui est très développé, qui est quasi unique à l'échelle mondiale, avec donc un nombre croissant d'industries qui sont taxées sur leurs émissions carbone. On sait que ce type d'outil pose des problèmes dans un marché ouvert, dans une économie globalisée, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de carbon leakage. La production peut partir dans des zones qui ne taxent pas le carbone. Et donc, l'ajustement carbone aux frontières est un outil qui va permettre de compléter le marché du carbone en protégeant finalement et en maintenant son efficacité, en luttant contre ce carbon leakage.
Isabelle Méjean, merci beaucoup d'avoir été ce matin dans les voies de l'économie sur Radio Classique.
L'industrie européenne, la protection du marché automobile sur le continent, on en reparle avec l'invité de 8h15. Ce sera Jean-Dominique Senard, le président du conseil d'administration de Renault Group. François, à demain. La matinale de l'économie, dès 6h. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Grosse friction entre la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, et Gabriel Attal. Radio Classique.